10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. La France en alerte rouge hier pour l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. Paris en état de siège, des véhicules blindés ont sillonné la capitale et une mobilisation équivalente à celle de la semaine dernière. 136 000 personnes sur toute la France et un dispositif sécuritaire hors norme qui n'a pas empêché, à Paris comme en région, des heurts, des tensions avec les forces de l'ordre et quelques scènes de pillage. On attend désormais la parole d'Emmanuel Macron qui doit s'exprimer demain soir à la télé. Pour dire quoi? Pour apaiser comment? Pour reprendre la main? Est-ce encore possible? Gilets jaunes donc encore hier à Paris, mais aussi gilets verts pour les marches pour le climat. La France est plongée dans une crise sociale, politique, écologique. Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes aujourd'hui ambassadrice des pôles, mais vous avez été ministre de l'Environnement sous François Hollande. Vous avez publié fin octobre Ce que je peux enfin vous dire aux éditions Fayard. Alors le sujet principal de cette émission, ça va évidemment tourner autour de la crise des Gilets jaunes, mais aussi des façons de dénouer aujourd'hui cette crise. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question.
Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Effectivement, on attend la parole présidentielle. Le chef de l'État va s'exprimer demain soir. On va revenir avec vous sur les mesures pour tenter de sortir de cette crise. Mais d'abord, votre réaction après les manifestations, les nouvelles manifestations hier à Paris, mais aussi partout en France, des débordements, des violences, une France fracturée, certains disent même cassée, qui ne parvient pas à se réconcilier. Qu'est-ce que cela dit de l'état de notre pays, Ségolène Royal?
Oui, en effet, c'est la première question qui me paraît la plus importante, parce que tous les Français et à travers le monde, tous ceux qui aiment la France et qui assistent à ces images répétitives, d'ailleurs, on y reviendra peut-être, ne reconnaissent pas la France. Donc il est temps que la France se réconcilie avec elle-même, d'autant plus que la France a eu toujours un message à donner au reste du monde. C'est la France, la patrie des droits humains, la patrie qui s'est donnée la première une constitution. Et donc nous avons aussi une responsabilité dans l'image que nous renvoyons au reste de la planète. Et c'est pour ça qu'il faut rapidement revenir à l'ordre juste, que le calme revienne, que l'apaisement prenne le dessus sur l'hystérisation de la société française et que des décisions soient maintenant prises rapidement.
Nicolas Barré.
On a vu finalement, il y a eu effectivement moins d'incidents que la semaine précédente, même si dans certaines villes, à Toulouse, à Bordeaux, il y a eu des scènes extrêmement violentes. Est-ce que c'est la mobilisation policière hors norme qui pourrait expliquer ceci ou est-ce que c'est un signe d'essoufflement du mouvement à votre sens?
D'abord, en tout état de cause, même si le mouvement s'essouffle, il ne faudrait surtout pas faire l'effort que font souvent les gouvernants lorsqu'un mouvement s'essouffle, de se dire justement « ouf, le mouvement est derrière nous ». Non, je crois que la crise, tout le monde en fait le constat, que la crise à la fois politique, sociale, écologique, économique est extrêmement profonde. Et rien ne serait pire que de considérer que parce que le mouvement s'essouffle, il ne faudrait rien faire ou faire à minima. Je pense que s'il y a eu moins d'exactions, c'est parce que les forces de maintien de l'ordre ont mis en place un système de sécurisation plus impressionnant, plus important, plus efficace aussi. Ça me permet aussi de rendre hommage au sang-froid et à la compétence et au professionnalisme des forces de police et de gendarmerie qui ont montré là leur capacité, malgré des formes nouvelles de guérilla urbaine, à ne pas avoir à déplorer aujourd'hui des drames sanglants qui auraient pu être le cas.
Le ministre de l'Intérieur a mieux fait son travail que la semaine dernière?
Je pense que c'est un travail collectif, c'est un travail collectif, c'est une professionnalisation de nos forces de l'ordre, bien évidemment, et de l'échelle de commandement qui, manifestement, était plus adaptée aux circonstances, disons rapidement, que lors des samedis précédents.
Alors, on va revenir sur, encore une fois, ce qui doit être mis sur la table pour essayer de dénouer cette crise. Mais donc, Emmanuel Macron doit parler demain soir. Qu'attendez-vous de lui? Est-ce qu'il doit, dans ses paroles, changer de style de présidence? Est-ce qu'il doit changer de vocabulaire? Qu'est-ce qui doit changer pour qu'on entende qu'il a entendu le message?
Je pense que pour apaiser le pays et pour le remettre d'aplomb et le remettre en mouvement vers le développement économique, social et environnemental, c'est quand même l'objectif hein, d'une nation, c'est de se remettre en mouvement et que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour produire un maximum de richesses et bien les répartir. Je crois que la réponse est attendue à trois niveaux. Au niveau des décisions d'urgence, d'abord. Ensuite, au niveau de la structuration de qu'est-ce qui fait que nous vivons ensemble, quel est le contrat social qui nous lie. Et enfin, quel est le changement au niveau du mode de gouvernance.
Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce mode de gouvernance?
Il y a eu plusieurs problèmes dans le mode de gouvernance. Il y a eu une accumulation de décisions mal préparées. Qui ont frappé très directement le niveau de vie des plus modestes d'entre nous. On ne va pas en faire la liste ici, hein, mais elles sont intervenues en même temps que des décisions concernant les plus riches, avec la suppression de l'ISF qui s'est télescopée avec l'augmentation de la CSG, avec les 5 euros sur l'APL, avec l'augmentation du prix de l'énergie.
Ça, c'est un problème de gouvernance ou c'est un problème de fond sur le choix des mesures?
Les deux. Il y a un problème de gouvernance parce qu'on ne peut pas d'un côté donner aux plus riches et reprendre aux plus modestes. Et il y a un problème de préparation et d'évaluation de l'impact des décisions que l'on prend. Lorsque la CSG a augmenté, moi-même j'étais extrêmement surprise. La taxe carbone également. On sait que ce sont des décisions extrêmement sensibles. Et lorsque les retraités ont réagi à l'augmentation de la CSG, on voyait déjà monter, notamment chez les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aux plus petites retraites, une exaspération, une angoisse, une souffrance même par rapport à leur vie, à leur survie, à leur dignité.
Donc il y a eu un gros problème. C'est vous qui l'aviez initié, cette trajectoire carbone, et cette taxation qui est arrivée normalement au 1er janvier,
oui.
C'était une trajectoire, encore une fois, que vous aviez dessinée.
Oui, et j'en suis fière d'avoir dessiné la trajectoire carbone.
Pourquoi? Sauf que vous êtes une des premières à avoir dit « faut reculer ».
Non, parce que la trajectoire carbone, elle était déjà mise en place. Donc quel besoin a eu ce gouvernement de brutaliser, de renforcer et de rendre plus inéquitable la trajectoire carbone? La trajectoire carbone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les activités les moins polluantes ne soient pas plus taxées que les activités les plus polluantes. Ça s'appelle le prix du carbone. L'accord de Paris sur le climat et l'engagement de tous les pays nous donne l'obligation de faire cette trajectoire carbone si l'on veut lutter contre les pollutions et si l'on veut protéger la planète sur laquelle nous vivons. Donc c'est très important. La trajectoire carbone telle qu'elle a été mise en place, non pas de façon brutale, unilatérale, comme ça a été fait avec la nouvelle taxe carbone, mais après un débat approfondi, auquel j'ai pris beaucoup de soin dans la co-construction de la loi de transition énergétique, la co-construction, j'ai même inventé ce mot pour faire en sorte que la représentation nationale se retrouve dans le nouveau modèle énergétique français, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et souvent d'ailleurs votée à l'unanimité au-delà des clivages politiques. Elle consistait, en ce qui concerne les carburants, uniquement les carburants, à faire sur 5 ans, plus 1 centime sur le gasoil et moins 1 centime sur l'essence. Voilà quelle est la trajectoire carbone. C'est une trajectoire carbone raisonnable, compréhensible, qui a d'ailleurs été très efficace, puisque en un an, le nombre de voitures diesel neuves vendues a baissé de 40%. C'est-à-dire que en matière écologique, il ne faut pas faire d'écologie punitive, il faut donner des signaux sur les perspectives que l'on recherche.
Et donc ensuite, trop brutal et pas assez préparé.
Et frappant essentiellement les consommateurs et ne mettant pas devant leurs responsabilités les constructeurs automobiles, le lobby du pétrole, le lobby du diesel, qui ne veulent pas bouger plus vite qu'ils ne bougent. Comment pouvez-vous comprendre que, par exemple, la voiture électrique qui a été inventée en France maintenant, il y a plus de 10 ans, on n'est pas sur le marché une petite voiture électrique urbaine à moins de 5000 euros? C'est parfaitement possible. Les brevets sont là, les compétences sont là, mais il y a une résistance du lobby de l'industrie automobile pour ne pas aller dans cette direction.
Ségolène Royal, vous faites le constat donc, à la fois d'un problème sur le fond, mais aussi d'une gouvernance. Certains dans l'opposition vont plus loin que vous et appellent même à une dissolution. Seule issue raisonnable et tranquille, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'on entend aussi des slogans des Gilets jaunes qui disent « Macron démission ». Est-ce qu'il faut en aller jusqu'à là pour sortir de cette crise?
Je comprends qu'il puisse y avoir une instrumentalisation politique de la situation. C'est le jeu des partis politiques. Mais le temps nous est compté. Vous savez, le monde va vite. Le monde va très vite. Et moi, je crois qu'il faut être très pragmatique, très concret, très simple. Et agir avec les moyens dont nous disposons, et nous en avons des moyens.
Mesures. Car là, la France est beaucoup... Donc le président est encore légitime à porter ces mesures.
Le président a été élu, il est là pour 5 ans.
La majorité présidentielle.
Donc il reste plus de 3 ans. Oui. Plus de 3 ans, c'est à la fois très court et très long. Un pays peut basculer ou au contraire peut se redresser en si peu de temps. Les attaques et les affaiblissements contre nos petites entreprises, hein, les petites entreprises, les PME tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme par rapport aux difficultés que ces crises à répétition leur provoquent. Et donc, il y a des menaces aujourd'hui sur l'emploi, sur la survie d'un certain nombre d'entreprises. Donc, il y a urgence à agir, car nous sommes dans un monde où la compétition internationale est féroce sur le plan économique et nous n'avons pas le droit de nous affaiblir économiquement et socialement par rapport aux défis qui sont devant nous.
Nicolas Barret.
Je vais revenir un instant sur l'état de la société, sur ces violences qui se sont exprimées. Vous avez eu des députés qui ont reçu des menaces de mort, des casseurs qui sont venus dans l'objectif de tuer des policiers. Il y a eu énormément de témoignages dans ce sens-là. Quelle est la racine de cette violence à votre sens ?
Déjà, le constat et la vision de cette violence est effrayante, d'une certaine façon. On s'interroge, on est obligé de s'interroger sur l'état de la société et sur qui sont ces
Christophe
jeunes.
Castaner a parlé d'un monstre qui a échappé à ses géniteurs.
Oui, je pense qu'il faut, dans le contexte, peut-être essayer de comprendre, hein, plutôt que de schématiser. Il faut essayer de comprendre. Et j'espère que les casseurs qui ont été arrêtés, on va essayer de comprendre quel est leur itinéraire personnel. Et s'il y a un déferlement, de nouveaux comportements, un déferlement notamment dû aux réseaux sociaux ou pas, parce qu'on rentre aussi dans une société qui a beaucoup changé. Vous voyez, avec des modes d'exercice du pouvoir qui, eux, n'ont pas changé. Avec des manipulations, avec une capacité de mobilisation des casseurs extrêmement rapide, avec des équipements qu'ils n'avaient pas avant. Donc, il faut regarder ce qui s'est passé dans la défaillance éducative aussi de ces jeunes, ou si tout simplement, c'est l'envie de voler, c'est l'envie de piller, c'est l'envie de saccager, c'est l'envie de se sentir fort à un moment, c'est le phénomène de foule, et ça, il faut le réprimer, tout simplement. Donc, il y a à la fois la répression sans faille à mettre en place, et en même temps, des interrogations sur le caractère éducatif, et sur les repères qu'un certain nombre de jeunes ont totalement perdus.
Alors, que mettons maintenant sur la table pour dénouer cette crise ? Ségolène Royal est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Ségolène Royal, ambassadrice des pôles et ex-ministre de l'Environnement, est l'invitée du Grand Rendez-vous. La parole est désormais au président de la République, qui doit donc s'exprimer demain soir. Une question de Nicolas Barré.
Doit donc s'exprimer et faire des annonces. Question simple, que souhaitez-vous l'entendre dire ? Quel type d'annonce attendez-vous demain soir ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, puis je crois, écoutons ce que demandent ceux qui aujourd'hui s'inquiètent pour leur fin de mois, mais aussi pour leur avenir. Il y a deux niveaux. Il y a ceux qui, et ce sont les mêmes. C'est-à-dire, il y a à la fois une inquiétude pour les fins de mois, pour ceux qui ont des revenus modestes, les bas salaires et les petites retraites, et en même temps, il y a une inquiétude pour le futur. Donc, il faut répondre à ces deux préoccupations. Donc, il faut à la fois des mesures d'urgence
immédiates sur les bas salaires, par exemple.
Immédiates. Des mesures symboliques comme le rétablissement de l'ISF, ça me paraît maintenant incontournable. Il y a aussi le CICE qui se prépare, 40 milliards. Donc, est-ce que ça serait judicieux dans le contexte actuel de redonner 40 milliards d'allègements fiscaux, y compris aux très grosses entreprises, y compris aux banques, y compris aux entreprises de la grande distribution ? À mon avis, non. Il faut conditionner le CICE à un certain nombre
CICE, baisse de charge, c'est 20 milliards, mais...
Pardon ?
C'est 20 milliards le basculement CICE, baisse de charge.
Oui, mais enfin, après, ça crée justement de l'activité, ça crée des revenus supplémentaires, ça crée des bénéfices supplémentaires, etc.
Donc, moratoire sur le CICE.
Ça fait baisser le coût du travail et ça favorise l'emploi. Et c'est aussi ça la logique de cette politique.
Je ne suis pas sûre que ça fait baisser le coût du travail, en tout cas.
S'il y a des baisses de charges sociales, ça fait baisser le coût du travail pour les employeurs.
Oui, mais écoutez, c'est parce que les... C'est, en tout cas, ça ne revient pas aux salariés, manifestement. Donc ça baisse peut-être le coût du travail, ça augmente peut-être les profits des entreprises, mais ça n'a pas beaucoup augmenté les salaires. Sinon, on n'aurait pas eu le mécanisme des gilets jaunes. Alors moi, je veux bien qu'on considère que tout est parfait dans le CICE. Moi, ça ne me gêne pas de le contester. Je l'ai contesté pendant le quinquennat précédent en disant qu'il était anormal de ne pas mettre de contrepartie en termes précisément de hausse de salaire, en termes de recrutement, en termes d'apprentissage et en termes d'investissement dans la croissance verte et dans les stratégies bas carbone des entreprises.
L'objectif de ce type de mesure, c'est de favoriser l'emploi à terme.
Il y a 20 milliards.
Alors, c'est ça la logique, en tout cas.
Mais il faut favoriser l'emploi de façon dynamique, pas de façon statique. Or, aujourd'hui, si c'est le ministère des Finances, on sait comment ça on raisonne. Il y a un trou quelque part, on va prendre ailleurs pour boucher le trou. C'est pas ça, la croissance économique. La croissance économique, c'est donner une impulsion aux entreprises pour qu'elles produisent des richesses. Et parce qu'elles vont produire des richesses et distribuer des salaires, à ce moment-là, il y aura une entrée de cotisations sociales et d'impôts dans les caisses de l'État pour financer les services publics. Donc, le CICE, c'est quand même 20 milliards que l'État a à sa disposition pour faire autre chose que ce qu'il a fait avant. Par exemple, pour conditionner ces 20 milliards dans la construction des stratégies bas carbone des entreprises. Isolation des bâtiments, baisse d'utilisation des énergies fossiles, biodiversité, transport propre, etc. Ça serait une belle condition. Donc, là, il y aurait de la cohérence.
Il y a des mesures qui viennent d'être annoncées là-dessus, sur l'isolation, sur la transition.
Ah bon, vous aviez vu des mesures ?
Dans le crédit d'impôt qui a été voté lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, le crédit d'impôt pour en termes de transition écologique, il y a des choses qui sont restées quand même.
Mais tout a été démoli. Le crédit d'impôt a été complètement démoli.
Non,
c'est ça l'aberration. C'est-à-dire on a continué, on a mis des taxes carbone supplémentaires sur les particuliers et pas sur les entreprises. Et en plus, on a détruit les outils de proximité qui permettaient aux citoyens d'être des citoyens écologistes.
Non, il y a un certain nombre de choses qui ont été reprises le projet de budget 2019, qui ont été votées et même étendues, puisque ça a été repris pour 2019.
Mais non, absolument pas. Vous avez une mauvaise information. Donc, regardez, le crédit d'impôt, il avait été conçu de façon très massive, c'est-à-dire 30% de prise en charge par une baisse d'impôt de vos travaux. Jusqu'à 8 000 euros, c'est pas rien, 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple. Et pour les gens qui ne payent pas d'impôt, c'était ristourné sous forme de chèque à hauteur de 30% du prix des travaux qui étaient faits. Pour que les gens puissent se saisir facilement de cet outil, et parce que le crédit d'impôt précédent ne fonctionnait pas, j'avais vu pourquoi ce crédit ne fonctionnait pas, parce qu'il y avait de multiples taxes et il y avait l'obligation de cumuler deux types de travaux. On a donc simplifié, on a dit un taux unique 30% et il n'y avait plus l'obligation de cumuler deux types de travaux, c'est-à-dire de faire en même temps vos fenêtres et les combles ou les murs et les portes, etc.
Donc
le gouvernement, je sais, connaît ça par cœur, puisque quand j'étais ministre et que j'ai mis en place cette action et obtenu ces arbitrages, le ministère des Finances était furieux. Évidemment, parce que ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 1 milliard d'allègements fiscaux. À peine le gouvernement nouveau est arrivé, immédiatement le ministère des Finances a pris sa revanche et a détruit ce qui avait été fait. C'est une absurdité. Pourquoi c'est une absurdité ? Parce que 1 milliard d'allègements fiscaux grâce aux travaux que les Français faisaient sur leurs fenêtres, sur l'isolation des murs, sur les combles. D'abord, ça économisait l'énergie, donc c'était bon pour la planète, et ça baissait leurs factures, donc c'était bon pour eux. Et en plus, ça a créé beaucoup d'emplois. Et toutes les entreprises du secteur du doublage des vitres avaient créé 10 000 emplois.
Donc, on revient sur les annonces que pourrait faire demain Emmanuel Macron.
Par exemple, celui-ci, puisque vous l'évoquez.
On
rétablit le crédit d'impôt de transition énergétique pour les gens, pour qu'ils puissent faire des travaux et gagner en pouvoir d'achat.
Deuxièmement, on rétablit, on vous l'avait dit,
on rétablit pour les territoires. Vous avez vu qu'il a reçu des maires, il a bien fait de recevoir les maires. Les maires pouvaient bénéficier, les communes pouvaient bénéficier des crédits des territoires énergie positive. Hier encore, j'étais sur un de ces territoires près de Montpellier. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et ils pouvaient faire des travaux sur les bâtiments publics, ils pouvaient faire du transport propre, ils pouvaient faire des énergies renouvelables, ils pouvaient faire du traitement de déchets, plein de choses en proximité, en simplicité, en contractualisation, des choses efficaces rapide, alors, qui crée des emplois dans les entreprises de leur secteur, du jour au lendemain, ce dispositif, sans doute parce que c'était trop simple et
donc
trop décentralisé.
Ça doit être dans la parole présidentielle demain soir.
Mais
le
oui,
SMIC,
il faut redonner SMIC, au territoire la capacité d'action, et les maires qui sont en première ligne du combat républicain, il faut leur donner les moyens, parce que c'est eux là, c'est ça la démocratie.
Madame Royal, le SMIC, est-ce qu'on augmente significativement le SMIC, comme le réclament un certain nombre de gilets jaunes? Les accords de Grenelle en 1968 avaient donné à la fin une augmentation de 30% du SMIC. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il faut faire ce geste-là demain dans la voix du président de la République?
C'est évident. Et vous voyez l'annonce de la taxation fiscale et en même temps l'annonce qu'il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC a aussi contribué à l'exaspération. Donc ça fait partie du paquet des mesures immédiates, des mesures d'urgence. Il y a la question, je crois que c'est pas à moi là, d'improviser, parce que vous savez, je aussi serais responsable, c'est pas à moi d'improviser un taux. Il faut que ça se regarde, il faut que ça se discute.
Mais un vrai coup de pouce, il n'y en a eu qu'un seul lors du quinquennat de François Hollande. Là, il faut renouer avec cette revalorisation significative du SMIC.
Vu la situation, c'est un élément d'apaisement très fort que de donner le signal de l'augmentation des bas salaires.
Et alors, sur les heures supplémentaires défiscalisées qui avait été supprimée pendant
Moi, j'y suis favorable. J'étais archi opposée à la suppression de leurs... Vous voyez, regardez, ça pose la question aussi des alternances. Pourquoi, quand un pouvoir arrive en place, il casse ce qui marche? Tout simple, pourquoi faire? Pourquoi dogmatisme.
Donc ça, c'est François Hollande qui avait cassé ce qui marchait avec Nicolas Sarkozy.
Et ça, c'était une bonne idée. Et de même, comme je viens de le dire, le nouveau gouvernement qui casse le crédit d'impôt et les territoires énergie positive, c'est pas une bonne idée. Pourquoi faire? Pour uniquement montrer qu'on casse ce que les prédécesseurs ont fait? Non. Ça, c'est vraiment un défaut de la politique française. Il faut garder les choses qui sont bonnes, quelle que soit la majorité politique qui les a faites.
Ça
c'est du bon sens, c'est du respect, tout simplement, du travail fait.
Toutes ces mesures, ça veut dire aussi qu'il faut s'affranchir de la règle, par exemple, des 3% de déficit
Et moi, je conteste ce raisonnement. Il y a un double raisonnement, à mon avis, qui empêche d'agir.
Il faut bien financer les mesures dont vous parlez.
Mais il y a un double raisonnement qui empêche d'agir. Oui, mais quand on supprime l'ISF, vous n'avez pas fait ce raisonnement. Quand l'ISF a été supprimé, moi, j'ai entendu personne dire « Ah ben, on s'affranchit des 3%. » Mais dès qu'on va augmenter les bas salaires, on dit « Ah ben, on s'affranchit des 3%. »
Oui, donc là, mais attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'affranchir
ou pas
des 3%?
On donne le CICE, 20 milliards et même plus. On ne dit pas « Ah ben, on s'affranchit des 3%. » Donc, dès qu'il s'agit des bas salaires, des salariés, des citoyens, il y a la menace, on s'affranchit les 3%. Et dès qu'il s'agit des plus riches et des grosses entreprises,
Là, on s'en affranchit, du coup, dans la situation où on est, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement dire cette règle n'a pas à s'appliquer dans l'année qui vient, par exemple?
Non, mais non. Pourquoi considérer qu'on est déjà abattu à l'avance parce qu'on va redynamiser, redonner du pouvoir d'achat? Mais le pouvoir d'achat, ce sont les bas salaires qui dépensent le plus. Quand vous augmentez les très hauts salaires, ils épargnent. Donc ça va dans les fonds de pension, dans les fonds de placement, etc. Ce n'est pas de l'argent qui dynamise l'économie, ça. Quand vous augmentez les bas salaires et les petites retraites, par définition, c'est consommé. Parce que comme les gens n'arrivent pas à terminer les fins de mois, ça, c'est de l'argent actif qui va aller dans l'économie. Et donc, le pari qu'il faut faire, et moi, je crois que c'est un pari réalisable, c'est que redonner du pouvoir d'achat, redonner une respiration aux catégories moyennes et aux catégories populaires, mais c'est réinjecter de l'argent dans l'économie, de l'argent actif dans l'économie.
Mais donc, redonner une phase de déficit accru, ça vous l'admettez?
Mais non, pas du tout. Et vous croyez qu'il n'y a pas de déficit accru là, avec ce qui se passe? Ça a coûté combien, là, depuis le début, depuis le 1er décembre? Ça a coûté combien à l'économie? Et là, personne ne s'inquiète pour savoir si ça contribue au déficit. Mais c'est terrible ce qui se passe. Les entreprises, beaucoup de PME vont faire faillite suite à ça. Alors, ça va contribuer au déficit. Voilà. Donc, quand il y a des tensions dans la société, quand il y a des blocages, ça coûte beaucoup plus cher à l'économie que quand on intervient rapidement, parce qu'on a compris qu'il y avait un certain nombre de choses. Et maintenant, il faut remettre d'aplomb les entreprises
et donc il faut redonner envie de travailler. Change de cap. On verra ça demain soir avec la parole présidentielle. On attend donc Emmanuel Macron demain soir. Ségolène Royal, ambassadrice des pôles et ex-ministre de l'Environnement, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Ségolène Royal, ambassadrice des pôles et ex-ministre de l'Environnement, est l'invitée du Grand Rendez-vous. Ségolène Royal, vous venez de plaider longuement pour un changement de cap de la part du président de la République, avec un conditionnement notamment du CICE, avec une hausse significative du SMIC. Est-ce que cette politique pourrait se faire avec les mêmes hommes qu'aujourd'hui, notamment avec un Premier ministre issu de la droite, avec un ministre de l'Économie issu de la droite, avec un ministre des Finances issu de la droite ?
D'abord, vous avez dit changement de cap.
Oui.
Moi, je n'utilise pas cette expression. Parce que tout le monde s'agrippe sur ce changement de cap. Faut-il changer de cap, pas changer de cap ? Et c'est bien ce qui a expliqué que jusqu'à présent, aucune décision n'ait été prise. Parce qu'il y a une espèce de crainte de devoir avouer que l'on change de cap, qu'on s'est trompé et qu'on fait autre chose.
Une crainte des
responsables actuels, président de la République, du Premier ministre. On ne change pas de cap, on s'agrippe.
On ne bouge rien. Si CICE, finalement, on ne le fera pas cette année, ça s'appelle un changement de cap.
Si on rétablit non, ISF, c'est pas un changement de cap. C'est un changement de cap, quand
non,
même.
Non, c'est pas un changement de cap, justement. Vous voyez, c'est important qu'au-delà des mesures opérationnelles, on puisse s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que la gouvernance. C'est un changement de gouvernance. Je ne parlerai pas de changement de cap. Qu'est-ce que c'est un cap?
Si le gouvernement devait rétablir ISF, comme vous le réclamez, c'est quand même un changement de cap,
non.
Ça.
Pour moi, ce n'est pas un changement de cap.
Bon, en tout cas, il ne faut pas le présenter comme ça.
Non, c'est pas un changement de cap. C'est la prise en considération que des erreurs ont été faites et que par rapport à un contrat avec la nation que doit nouer tout pouvoir en place, par rapport à la visibilité que les Français ont, quelle que soit leur situation dans le pays, et vers quoi on va, et qu'est-ce qui fait qu'il y a une solidarité nationale qui est en place et pas des explosions sociales comme on les vit aujourd'hui. C'est un objectif global. Et pas dans cet objectif global d'un pacte avec la nation, il y a la question de la justice sociale.
Et donc de l'efficacité, on peut le faire avec les mêmes hommes.
Et de l'efficacité
économique.
C'était
ma question.
Mais je crois que ça, c'est une question qui est secondaire. Il faut d'abord redéfinir qu'est-ce que c'est que le contrat avec la nation, quelles sont les mesures d'urgence à prendre et comment on reste fidèle à l'engagement qui a été pris et qui relève du pouvoir actuel et sur la base de laquelle a été élu Emmanuel Macron, c'est-à-dire comment est-ce qu'on concilie la justice sociale, l'efficacité économique. Et par rapport à votre question, c'est vrai que le pouvoir est un peu déstabilisé entre la droite et la gauche. Il faut quand même bien le dire. 2 électeurs sur 3 de gauche ont voté pour Emmanuel Macron pour éviter le Front National, souvenons-nous quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir est déséquilibré.
Et donc, il pourrait être incarné, non pas ce changement de cap, mais cette compréhension nouvelle de ce qu'il faut faire par quelqu'un d'autre éventuellement.
Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de volonté politique, de cohérence politique et de méthode. Et au cœur de cette méthode, par rapport au cap, justement, qui est un vocabulaire qui empêche de voir clair et d'agir, il y a le problème de est-ce qu'il y a une autre solution ? Oui, il y a le problème de l'alternative. Qu'est-ce qui angoisse aujourd'hui les Français ? C'est qu'on leur répète du matin au soir qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais quand un responsable politique explique aux gens qu'il n'y a pas d'autre choix, il fait fausse route. Et il n'est pas fidèle à la responsabilité, à la mission d'un responsable politique, qui est toujours de regarder en permanence s'il n'y a pas une alternative, un autre choix plus cohérent, plus utile, plus efficace et plus juste. Et on le voit dans le domaine de l'écologie et de la transformation environnementale. Sans arrêt, en tant que ministre de l'Environnement, chaque fois que j'avais une décision à prendre, je me suis dit, est-ce qu'il y a une solution plus intelligente, plus efficace ? Et d'ailleurs, la loi a imposé, et j'ai imposé dans la loi, l'obligation, quand il y a de grosses infrastructures pour éviter des situations comme Notre-Dame-des-Landes ou comme Sivens, l'obligation de regarder s'il y a des alternatives.
Mais vous avez aussi reculé sur un certain nombre de mesures, l'écotaxe par exemple.
Oui, et heureusement que j'ai reculé sur l'écotaxe, mais on va revenir. Et je veux dire, quand il y a une alternative, ça permet aux citoyens de s'exprimer. Parce que notre démocratie étouffe de cette verticalité du pouvoir. Il n'y a plus d'espace. Et vous avez en face de vous et quelqu'un quand même qui plaide depuis des années pour la démocratie participative.
À la fois, vous dites, par exemple, sur le glyphosate, la France ne doit pas ramollir.
Il faut remettre de la démocratie participative. Et la démocratie participative, la démocratie citoyenne, on la remet quand un pouvoir cesse de s'aveugler et admet avec humilité qu'il peut y avoir une alternative à la solution qu'il a choisie en tout premier. Et à ce moment-là, quand on regarde les alternatives, les citoyens peuvent s'exprimer et on peut décider collectivement, y compris avec les élus locaux, quelle est la meilleure solution ? Est-ce qu'il y a une alternative plus intelligente ? Vous voyez ?
Vous avez expliqué l'origine de la crise dans laquelle nous sommes dans un entretien au Financial Times, le journal des affaires britannique, en disant c'est très simple, les Français en ont marre des taxes.
Oui.
Donc, la racine de tout ça, c'est le ras-le-bol fiscal, au fond ?
Ah oui, je pense qu'il y a ras-le-bol fiscal et ras-le-bol de la hausse des prix, puisqu'on la France détient le record, même en Europe,
des prélèvements obligatoires.
Mais c'est surtout, vous voyez, des choses qui n'ont pas été vues et qui ont été vécues. Il y a ce qui est vu, ce qui est dit et ce qui est vécu par les citoyens. Ce qui a été vécu, c'est la hausse de la CSG, la hausse des prix alimentaires. Personne
mais
n'en
sur
parle.
Ras-le-bol fiscal, il ne
la
date pas
hausse
que
des
de,
prix alimentaires
de
est, la, est, la, est le prochain sujet de colère des gens. Parce que tous les jours, ils entendent dire qu'il faut manger bio pour ne pas avoir le cancer, etc. Mais les petits revenus ne peuvent pas accéder à cette alimentation saine. Donc il y a une inégalité devant la santé et devant l'alimentation, là, qui est un vrai problème dont personne ne parle aujourd'hui. Mais vous allez voir, si ce problème n'est pas résolu, il va servir aussi de sujet de colère. Parce que quand, en plus, les revenus baissent, on économise sur son chauffage, on se chauffe un peu moins, mais on mange moins aussi. Et on mange moins bien. Et quand on entend des gens privilégiés nous dire que pour ne pas polluer, il ne faut pas manger de viande, alors qu'il y a des millions de gens qui aimeraient bien s'acheter de la viande au moins une ou deux fois par semaine, c'est scandaleux. Donc il faut faire très attention. Et l'écologie ne doit pas, je le répète, y compris sur la question alimentaire, faire oublier qu'il y a un lien très étroit entre l'alimentation et la santé et de grandes injustices devant ce sujet.
Et ça, aujourd'hui, les Français,
le
comprennent. Le cri d'alarme de Nicolas Hulot, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on l'entend encore, ce cri d'alarme ?
Ça a réveillé les consciences et la volonté d'agir, en tout cas.
Mais ça a changé quoi ? On a l'impression qu'on a, depuis la démission de Nicolas Hulot, on a abandonné de fait la taxation supplémentaire. Qu'est-ce que ça a changé ? On a en ce moment une COP24 qui essaie de mettre en œuvre les accords de Paris avec des perspectives qui sont absolument apocalyptiques. Mmh. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Aujourd'hui, quelle est l'urgence pour répondre à ça ?
Oui, et en plus, c'est une chance. C'est une chance.
Le
on n'entend que des discours catastrophistes. Moi, je crois que c'est une chance, le défi climatique. Et c'est une chance de sortir de la crise économique, de la crise sociale, des injustices. La crise écologique est une chance si on la saisit correctement, si on donne aux entreprises les moyens de s'investir dans la croissance verte, s'il y a plus de courage politique par rapport aux grands arbitrages financiers, si on met des contraintes sur les banques pour qu'elles investissent dans la croissance verte. Et je ne vais vous donner qu'un exemple. À la fin de mon mandat de ministre de l'Environnement, nous avons fait les green bonds, les obligations vertes. Nous avons levé 13 milliards d'euros. Les banques, pour ça, sont rémunérées pour ce prêt. Ce sont des obligations vertes, c'est un petit peu complexe, mais c'est très important. Où sont passés ces 13 milliards d'euros ? Ce n'est pas la peine d'aller mettre des taxes sur l'essence, sur les gens modestes. Où sont passés ces 13 milliards d'euros ? Moi, je serais très curieuse de le savoir. Il y a donc 13 milliards d'euros disponibles pour les filières de la transition énergétique, pour les énergies renouvelables, pour la performance énergétique.
Vous nous dites quoi,
avec 13 milliards d'euros,
moi,
je propose qu'avec ces 13 milliards d'euros, on lance un plan massif de travaux d'isolation sur les métiers du bâtiment. Parce que quand le bâtiment va, tout va, comme dit le dicton. Et c'est tellement vrai. Et en plus, si tout le monde peut faire isoler son logement, les factures d'énergie seront beaucoup moins élevées et on créera beaucoup d'emplois non délocalisables dans les métiers du bâtiment. Je crains que ces 13 milliards n'aient servi simplement qu'à boucher les trous dans le budget de l'État. Mais ça, c'est inadmissible.
Vous parliez de courage politique en disant qu'il faut du courage politique pour tout ça. Mais pourquoi c'est si difficile dans ce cas-là de défendre la fiscalité écologique ? On l'évoquait tout à l'heure, vous aviez supprimé l'éco-taxe.
Oui, vous avez vu ce que j'ai évité au pays quand même.
Au début de cette crise, ce qui a coûté une fortune à l'État, entre parenthèses.
Non, absolument pas.
Ça a coûté plus d'un milliard
d'euros. Absolument pas. Le coût
il a fallu indemniser.
Lisez mon livre et vous verrez que c'est absolument faux.
Bah, vous dites
et d'abord,
qu'il
le blocage pendant un mois, deux
indemniser.
Mois, trois mois de la France par les camions aurait coûté plusieurs milliards d'euros. Quand
et là,
on
ça
voit,
a coûté un milliard.
Mais
un milliard parce
absolument.
Qu'il a fallu indemniser Ecomove notamment.
Mais parce que cette indemnisation, c'est 800
millions
d'euros. Je les conteste. Je les ai contestés. Ils ont été décidés par Manuel Valls.
Vous les avez contestés, mais il n'aurait
pas fallu les payer.
La République française les a payés. Ça a coûté de l'argent.
Oui, mais enfin,
aux contribuables.
Non, c'est pas vrai, parce que les transporteurs routiers ont accepté en contrepartie de la suppression de l'écotaxe, d'où la nécessité, vous voyez, de dialoguer, de payer à la place 4 centimes d'euros par litre de carburant, premièrement. Donc, il y a eu quand même les rentrées des taxes. Et deuxièmement, ces 800 millions d'euros versés à une entreprise italienne, Ecomove, sont parfaitement scandaleux. Ils n'auraient jamais dû être versés.
D'accord, mais j'en reviens à la question, pourquoi c'est si difficile de défendre la fiscalité écologique ?
Pour que ça soit dans les archives nationales, au cas où il y aura un contentieux, ce que j'espère. Et cette décision de l'écotaxe a été signée quand même par messieurs Fillon et Busseron entre les deux tours de l'élection présidentielle et ont fait l'objet d'une enquête du parquet de Nanterre sur l'attribution à une entreprise italienne qui percevait 20% de l'impôt des Français.
Oui, mais entre-temps, c'est M. Valls, le Premier ministre, qui a dû effectivement, indemniser cette société.
Il n'aurait pas dû, car cette société n'avait pas rempli ses obligations, et notamment celle d'évaluer en Alsace la faisabilité et le fonctionnement réel du système de l'écotaxe. Et n'ayant pas... Donc il y a eu des accords politiques... fait par Manuel Valls, qui ont coûté effectivement 800 millions d'euros et qui n'auraient jamais dû être versés. Mais pour ça, il faut avoir la capacité de résister aux lobbies de toutes sortes. Et quand vous me posez la question, qu'est-ce qui ralentit les choses ? Mais c'est souvent la résistance des lobbies. Et regardez le lobby de l'automobile. C'est quand même terrible. Le lobby de l'automobile qui ne met pas sur le marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, des véhicules plus propres et moins chers. Et
bah, pourtant, qui investit beaucoup dans la technologie électrique, mais c'est vrai que ça prend du temps.
Non, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Non. Et vous verrez, si on ne le fait pas, ce seront les Chinois qui mettront sur le marché une voiture populaire électrique. Il y a d'autres solutions, hein, propres, les voitures à hydrogène, les voitures au biocarburant, etc., que réclament d'ailleurs nos agriculteurs. Ça fait aussi des débouchés pour l'agriculture, le biocarburant. Mais non, il n'y a pas de volonté politique. Et il y a un lobby des industries de l'automobile qui ne veulent pas bouger, parce que ça coûte toujours plus cher de bouger que de ne pas bouger.
Il y a des investissements considérables des constructeurs automobiles pour développer l'électrique, ça vous pouvez pas nier.
On continue à parler écologie, mais aussi européenne dans un instant avec Ségolène Royal, qui est l'invitée du Grand Rendez-vous. Restez avec nous.
10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Le Grand Rendez-vous de Ségolène Royal, ambassadrice des pôles et ex-ministre de l'Environnement. Mais maintenant, que va faire Ségolène Royal ? Une question de Damien Fleurot.
Oui, qu'allez-vous faire pour les élections européennes ? Elles ont lieu au mois de mai prochain. L'occasion peut-être d'envoyer un message démocratique dans les urnes à Emmanuel Macron, à sa majorité. Le Parti Socialiste vous tend la main. Alors vous dites ne pas vouloir venir à la rescousse des appareils politiques. Mais est-ce que la situation du pays ne vous amène pas à reconsidérer cette position, à vous engager très concrètement pour prendre la tête de liste ?
Alors, dans le contexte actuel, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de batailles d'égo. Et ça devient insupportable. On entend fleurir les multiples listes pour les élections européennes.
Surtout à gauche.
Surtout à gauche, d'ailleurs. Surtout à gauche. Et ça, je pense que c'est très négatif.
Donc, mais vous engagez sur le fond ?
Ben, qui ait des problèmes et des enjeux au niveau européen, c'est évident. La question, par exemple, la question environnementale, la question climatique, c'est évident que l'échelon européen est un échelon crucial, y compris sur le domaine de l'économie verte. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Donc. Il y a aussi, c'est vrai, des risques de chaos politique, parce qu'on voit, hélas, ce qui se passe aujourd'hui ne fait que favoriser cela. On voit un double danger.
Les progressistes contre les nationalistes.
On voit un danger d'abstention massive et on voit un danger de vote vers l'extrême droite. Et demain, donc, peut-être un chaos au niveau du Parlement européen.
Donc vous relevez le défi.
Non, parce que je ne veux pas rentrer dans cette guerre d'égo. Et s'il doit y avoir de multiples listes, d'ailleurs sans de vrais projets politiques... soit pour sauver des vieux appareils politiques, soit pour des listes, pour que les gens retrouvent leur place au chaud au Parlement européen, soit
mais
pour régler des comptes au niveau
de la politique
nationale.
Ségolène Royal.
Je pense que ça ne servirait à rien d'ajouter un égo aux guerres d'égo, en gros.
Mais quelles sont les conditions que vous posez ? Vous dites...
Il faut qu'il y ait des stratégies de rassemblement.
Oui, mais pour ça, il faut les initier, peut-être.
Oui, mais il faut que tout le monde en ait envie.
Et alors, vous parlez avec qui ?
Et pas seulement dans les déclarations. Hein, donc... Non, j'ai autour de moi des
Benoît
hommes, des
Hamon
hommes
est candidat,
et des
est-ce que vous parlez avec lui aujourd'hui ?
Mais ça ne se pose pas de cette façon-là. Bien sûr qu'on parle à tout le monde, oui, bien sûr.
Et puis
Yannick
Jadot,
on verra à ce moment-là, oui, bien sûr.
L'écologiste,
bien sûr, oui.
Jean-Luc Mélenchon, vous lui parlez
oui,
aussi ?
Oui, bien sûr.
Vous parlez à tout le monde ?
Oui.
Et donc ?
Eh bien, donc, il faut que les choses se décantent un peu. Et donc, on verra.
Mais
en
ça veut
janvier.
Dire qu'on peut imaginer
on verra
une liste commune
mais ça
de tous ces appareils ?
Pour l'instant, ça ne se pose pas en termes de liste. On est bien en amont. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, il y a une volonté, une capacité de rassemblement de celles et ceux qui ne veulent pas qu'il y ait au niveau européen une sorte de chaos politique et d'incapacité à agir au niveau européen par rapport aux défis dont nous avons parlé pendant l'heure qui vient de s'écouler, aux défis considérables pour lesquels l'échelon européen peut être utile, sans empiéter sur l'échelon national ni sur l'échelon local. Je crois que c'est une bonne articulation de la démocratie au niveau de ces trois échelons-là qui peut être efficace. Est-ce qu'il y a des convergences pour faire une offre politique attractive aux Français, pour à la fois que ceux qui veulent s'abstenir viennent voter, ou que ceux qui veulent aller vers les extrêmes viennent voter sur une offre politique efficace qui donne envie et qui soit crédible.
Mais vous dites voilà, en même temps, les élections européennes, c'est en mai prochain.
Oui, mais c'est très long, vous savez, en mai. C'est très long.
Et donc, vous vous déciderez au vu de cet éventuel...
Pas toute seule, collectivement, oui. Avec le collectif qui m'entoure, nous déciderons, en fonction de cela, si nous pouvons être utiles ou pas, pour être au service de cette cause ou pas, et de quelle façon.
Nicolas Barré.
Cette semaine, dans un entretien au Monde, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve est sorti de sa réserve avec des mots assez forts en disant « L'opposition ne doit pas être irresponsable, je laisse aux démagogues les leçons outrancières et la stratégie du chaos ». Est-ce que vous pensez qu'il pensait à François Hollande notamment, qui avait reçu une dizaine de jours?
Je ne sais pas, il faut lui poser la question.
Mais comment avez-vous vécu ce soutien affiché de l'ancien président de la République?
Vous savez, vu la gravité de la situation, moi je commande pas les initiatives des uns et des autres qui sont libres de prendre. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de savoir comment on sort de cette situation, comment on redonne aux Français l'envie d'y croire, comment on leur redonne le sens qu'il y a un pilote dans l'avion.
Mais s'afficher à leur côté, leur tendre l'oreille,
bien sûr.
C'était inopportun.
Qui devait d'ailleurs contribuer un peu à la lutte contre la pollution. C'est ça, aujourd'hui. Vous savez, regardez ce qui se passe à l'international. Hein. Vous avez vu les réactions de Trump, les réactions même d'Erdogan. Il faut vraiment aujourd'hui que la France redevienne la France.
Mais justement, voilà,
avec son talent, avec son énergie.
Qu'un ancien président s'affiche ainsi, est-ce que c'est à la hauteur de son ancienne fonction?
Écoutez, s'il a pensé que c'était utile, vous lui poserez la question. Mais je ne vais pas commenter les comportements. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous sortons de cette situation et en étant plus forts collectivement en sortant qu'en y étant entré. C'est ça qui est très important. Et pour que tous les jeunes de notre pays aient un espoir de trouver une place dans notre société avec un emploi. Savez-vous qu'un jeune sur deux renonce à un emploi parce qu'il ne veut pas se déplacer? Savez-vous cela? Un jeune sur deux, en milieu rural et périurbain, renonce à prendre un emploi parce qu'il n'a pas les moyens de déplacement. Est-ce qu'on peut encore vivre de cette façon-là? Non. Donc la question de la mobilité est aussi une question cruciale. Et avoir frappé financièrement la mobilité, c'est un contresens économique et c'est un contresens social. Donc il faut revenir à un petit peu de bon sens. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des choses très grandiloquentes. On peut, bien sûr, définir des pactes sociaux, des états généraux, etc. Mais moi, je crois qu'il y a des mesures immédiates, simples, rapides, contractualisées avec ceux qui sont sur le terrain, les maires, les petites entreprises, et qui ont envie d'agir, d'avancer, et qui connaissent l'état d'esprit de nos concitoyens. C'est à eux qu'il faut faire confiance dans un partenariat intelligent et créatif.
Damien Fleurot.
Vous avez vu des images de cette interpellation de 150 lycéens à Mantes-la-Jolie la semaine dernière.
Oui.
Qu'avez-vous pensé de ces images? Est-ce que vous avez été choqué de la façon dont les forces de l'ordre ont interpellé, arrêté ces jeunes qui manifestaient, alors il y avait sans doute des casseurs parmi eux aussi, contre les réformes dans l'éducation nationale mises en place actuellement par l'exécutif?
Disons qu'au début, les images m'ont surprise, comme tout un chacun. Au lieu d'être à genoux, on pouvait peut-être être assis, mais enfin bon. Et puis après, j'ai regardé ce qui s'était passé sur Mantes. Et je me suis demandé pourquoi les policiers avaient mis en place cette stratégie assez efficace, d'ailleurs, hein, de coincer les jeunes de chaque côté pour qu'ils cessent de faire des exactions dans la rue. C'était quand même terrible. Il y a eu des bonbonnes de gaz jetées dans des bennes à ordures qui auraient pu flamber. Il y a une femme seule qui a été agressée. Il y a eu des voitures incendiées.
Enfin, il y a eu un déferlement de sauvagerie. En fait, ces jeunes.
Mais dans ces jeunes, parmi ces jeunes, il n'y avait pas que des lycéens, d'abord. Hein, il y avait aussi des casseurs qui, avec une sauvagerie incroyable, ont commencé à allumer des feux partout dans Mantes. Et les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé. Il n'y a eu aucun problème. Ces jeunes se sont retrouvés effectivement dans des postures que les plus anciens choquent. Ça choque parce que ça rappelle peut-être d'autres images. Mais quand même, soyons un peu efficaces et un peu concrets. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal pour leur redonner un peu le sens des réalités.
Donc on était hier dans l'ordre de la façon de... On était cette semaine avec ces images.
En tout cas, ça n'a pas été fait avec une quelconque atteinte aux procédures judiciaires et juridiques. Et ça a été couvert par le parquet. Et c'est une bonne chose de temps en temps de voir qu'on ne laisse pas ces jeunes casseurs faire n'importe quoi et n'importe où et n'importe comment.
Vous dites de façon... Vous exprimez de façon très différente de vos amis de la gauche qui ont été, eux, largement choqués par ces images. Un son de cloche différent.
Oui, parce qu'il faut voir le contexte et il faut voir que peut-être grâce à ça, des victimes ont été protégées. Et c'est ça qui est quand même très important. Alors, c'est vrai qu'au lieu d'être à genoux, on peut être assis. Mais enfin bon, à un moment, dans le feu de l'action, voilà, il faut aussi être du côté de ceux qui rétablissent... Voilà, la sécurité et au péril aussi de leur propre vie.
Merci Ségolène Royal, merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous, merci. Une émission en partenariat avec CNews et Les Échos. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.